Paysages animés est une anthologie littéraire de textes aimés, lus et commentés par la chercheuse Anne Simon. Épisode 1, le grand livre des forêts. Pour accéder aux histoires de vie, de mort et de beauté du grand livre des forêts, selon l'expression de Jean-Pierre Hoth, il faut apprendre à lire un paysage mouvant. Ce peut être, pour un enfant, une imprégnation de tous les sens, au fil d'une lente transmission d'expériences de chasse, de quête ou d'observation. Ce peut être aussi, pour une adulte comme Claudie Hunzinger, une découverte au long cours, aiguillonnée par la syntaxe des effluves, des empreintes et des reliques laissées à même le sol et les branches, mais aussi par l'emballement fantastique des boussoles, des cartes, des récits d'histoire naturelle ou des traités de vénerie. Dans tous les cas, lire une forêt, c'est lire par corps et par cœur, en arpentant les pistes laissées par les bêtes, dans un sous-bois tout proche, ou comme Romain Bertrand, en se remémorant devant une forêt de Bornéo ravagée par le productivisme, les merveilleuses écritures du détail du monde. Jean-Pierre Hoth, L'amour en forêt. Écrivain, peintre, passeur de nombreux mythes portant sur la création, Jean-Pierre Hoth explore depuis les années 70 de multiples genres littéraires. Parmi ceux-ci, une série d'ouvrages éthologiques, poétiques et souvent drôlatiques sur l'amour naturel, de « La sexualité d'un plateau de fruits de mer » aux « Amours en vol ». Dans chaque ouvrage, différents chapitres portent sur des animaux divers, sur leurs parades, leurs désirs et leurs plaisirs parfois incongrus, mais sans nul doute intenses. Si nous pouvons le pressentir, c'est qu'il y a en nous les ruses du renard, la danse de l'ours, la nage louvoyante de la loutre et l'envol du faucon, écrit-il dans L'amour en forêt, paru en 2001. Le portique qui ouvre ce poétique essai revient sur le legs d'une enfance des années 50. Des gestes, exaltés, cruels ou aventureux, déploient un monde inconnu. Des arpentages et des partages donnent à lire les paysages, à condition de s'y plonger corps et âme. Le titre du livre le suggère, c'est autant en forêt qu'en se faisant forêt que Jean-Pierre Hoth peut aborder la terrestre écriture des amours animales.
Portique des forêts. D'un geste lent, ils écartaient la branche, rebroussaient sans bruit la tenture des feuillages. À 100 pas, près d'une anfractuosité rocheuse, une renarde s'ébattait avec ses renardeaux sur le grain noir d'une terre de bruyère. C'était un présent magnifique, un épisode volé au mystère des forêts. La scène m'emplissait les yeux, m'envahissait par tous les pores, en même temps qu'un pan s'était levé sur une vie obscure, inconnue à l'intérieur de moi-même. Soudainement, la renarde dressait le museau, comme pour flairer un effluve étranger, ou vérifier l'intuition d'un péril. Et on laissait retomber insensiblement la branche, bien que l'on fût sous le vent. J'avais 9 ans, et mes premiers sentiers étaient des sentes de braconnage. Autant d'affûts, d'approches, de passages dérobés, de glissements dans les clartés incertaines du crépuscule, entre chiens et loups. La vallée de l'enfance était longue, étroite, encaissée, cernée par des pentes d'épicéa, avec des prés marécageux suspendus près du ciel. Les bûcherons y étaient en même temps braconniers oiseleurs en octobre, lorsqu'ils tendaient au miroir ou à la chanterelle. Avec eux, j'entrouvrai le grand livre des forêts, le répertoire des empreintes et des pistes, le catalogue des odeurs de musc laissées dans la fougère ou la myrtille de loup. Alors qu'une naissance favorisait les humis en position légale de chasser sur leur terre, avec livrées, chiens et rabatteurs, ces braconniers compensaient la malchance d'une destinée modeste par une connaissance précise et passionnée de la nature. Rien n'avait pour eux de secret. Leur ruse, leur patience calculée, l'art même du camouflage s'articulait à partir d'un savoir sérieux, la lecture de l'herbe pliée, de l'effluve et de la trace. J'apprenais à distinguer les coulées du lapin et du lièvre. Les deux ont leur sentier vers leur pâturage préféré, mais le lapin plie les herbes dans sa coulée, tandis que le lièvre les ronge, comme si sa libre dignité devait par avance s'offusquer d'une pointe sèche fichée dans ses babines. Avec le crin des chevaux, les doigts luisants d'une huile d'axonge, ils fabriquaient des nœuds coulants, les accrochaient aux branches, toujours à l'est, vers le lever des lumières, avec pour appât des grappes de sorbe rouge. Et tôt le matin, l'on partait relever les pistes et les pièges, recueillir toutes ces griffes pendues comme des bibelots encore chauds, pour les fricasser au lard et au genévrier. Ce furent mes fêtes sauvages. Les épisodes continuaient de se prolonger en moi, imprimant dans la mémoire des marques fraîches et vivantes. Ils se recréaient sans cesse, et se recréent encore aujourd'hui dans mon esprit, avec une fidélité fabuleuse, se découpant désormais comme des amulettes ou des figures fétiches. Je ne fais pas l'apologie du braconnage, et moins encore celle de la tenderie. Je cherche seulement à signifier les trésors ineffables et les traces que ces scènes entreposaient en moi, accumulées à travers les sens en un lieu inaccessible que l'on nomme tantôt l'âme, tantôt la vie intime, la confluence imprécise de la mémoire et de l'imaginaire. Et plus tard, quand il s'est agi de devenir, c'est à partir de cette matière impalpable que se sont détachés tel un rébus les éléments d'une mythologie presque personnelle. Ma réflexion d'aujourd'hui, c'est encore cette matière de mémoire qui s'est modifiée. Il faut donc progresser en plein air, avoir ses affûts, ses repères et sa patience, pouvoir déchiffrer les pistes et s'aventurer en escomptant la chance, cette chance qui se mérite par l'aimantation. Au fil des ans, l'on échange ses expériences et ses surprises avec d'autres naturalistes ou certains gardes-chasse, et c'est ainsi qu'une connaissance se construit. Quelquefois, il convient de consulter des ouvrages pour y trouver une confirmation ou un éclaircissement, mais cela, toujours en dernier recours. L'écrivain se doit de tout constater et découvrir à partir de soi et par soi-même. L'écriture n'acquiert sa magie qu'à la faveur d'un cri, d'un fumet, d'un glapissement qui nous retentit dans les fibres, ou d'une piste sinueuse dans les herbes, où, tout à coup, au crépuscule, ce n'est pas le lièvre qui revient, mais un blaireau qui va s'enivrer des raisins d'une vigne plantée plus loin sur les pentes.
Claudie Hunzinger, Les grands cerfs. Écrivaine et plasticienne, Claudie Hunzinger s'est installée à la fin des années 60 à Bambois, dans les Vosges. Grande déchiffreuse des textures et des langues de la nature, elle publie notamment, dans les années 70, des romans explorant une veine naturelle, sensible et incarnée, sans céder sur leur ancrage dans les problématiques sociales et historiques. Dans Les grands cerfs, paru en 2019, une femme, qui vit en montagne avec son compagnon Nils, est irrésistiblement attirée par les traces mystérieuses des cerfs qui habitent la forêt. L'ailleurs jouxte la maison. Aidée d'un photographe animalier qui se découvrira plus trouble qu'il n'y paraît, elle nous présente tout d'abord son initiation à l'affût et à la lecture des traces de la vie animale. Puis elle chante son rêve, au conditionnel mais on finit par l'oublier, de devenir cerf autant que forêt, de se faire présence pure, traversant tous les temps. Notre présent finira par les rattraper, mais c'est en lisant le roman que vous découvrirez comment, si une harde ne vous a pas happé avant.
La neige aux vitres, éblouissante. Oreiller, couverture devant les portes. Le tapis d'un rouge plus intense, les meubles d'un bois plus sombre, la maison plus profonde. Grand silence. Et alors je me suis dit « vas-y ». Et je me suis lancée dans les repérages. J'avais une carte IGN, un carnet, et faisais de grands tours à pied pour observer les lisières des prés. Je relevais les traces, les empreintes, les coulées et les passées. Je dressais la liste des buissons, des souches des pins abattus par la tempête de 1999 et des très gros rochers, des gueules de terriers, renards ou blaireaux, chacun une loge où je pourrais me poster. Je voyais d'un autre regard le lieu où je vivais depuis des années. Je dressais la liste des buissons, des souches des pins abattus par la tempête de 1999 et des très gros rochers, des gueules de terriers, renards ou blaireaux, chacun une loge où je pourrais me poster. Je voyais d'un autre regard le lieu où je vivais depuis des années. Je notais les fumées, comme on appelle les excréments, noirs et luisants, perlés, que jettent les cerfs et qui varient avec l'âge et la saison, et j'apprenais le vocabulaire qui les décrit, aiguillonnés, déliés, dorés, en bousard, en chapelet, en plateau, hantés, en torche, formés, noués, ridés. Veine. Je repérais l'emplacement des excréments des autres animaux qui sont des pancartes, des drapeaux, des blasons dont les odeurs sont des états d'âme, des billets doux, des rendez-vous ou des défis, des intimidations. J'observais tout. J'enregistrais la nature du sol. Silencieux ou bruyant quand je m'approcherais, je vérifiais le sens du vent et sa dominante. On dit qu'on ne peut pas rester inaperçu au niveau olfactif, même en mirador, même en cabane d'affût tressée de fougères, et encore moins à peine enrobée d'un filet à large déchirure. Qu'il faut utiliser la même vieille paire de bottes, le même t-shirt, le même pull, rangé dans un tiroir tapissé d'aiguilles de sapin. On dit que, quoi qu'on fasse, on restera un être humain. Qu'il faut savoir venir, revenir, se faire tolérer. Nils m'a toujours dit que lui, il pouvait faire son bois, tronçonner, sans les faire fuir. Si on ne s'occupe pas d'eux, ils ne s'occupent pas de vous. Mes longs préparatifs le faisaient sourire, peut-être d'envie malgré tout. Parce que, n'empêche, ça sentait le départ autour de moi, la terre inconnue, la découverte. Prudent, les cerfs ne sortaient pas encore à découvert. Je n'avais d'eux que des silhouettes lointaines, ou alors des traces. Que lire dans les traces? Qu'apprendre d'elles? J'ai posé la question à Léo, dans un email que lui-même, m'a-t-il répondu, avait posé à un chasseur qui lui avait répondu. Un vieux cerf se déplace différemment, il est plus lourd et s'enfonce davantage dans la neige. Et plus vieux, l'écart entre les sabots est plus court. Cette même semaine, mi-janvier, sous la maison, calme plat, pas un bruit, j'ai croisé la première piste sortant de la forêt, dessinant une ligne nette dans la neige fraîche. Je l'ai suivie. Ne pas me tromper de sens. L'arrondi indique l'arrière, la fente du sabot, l'avant. Je plaçais mes bottes dans les traces des sabots, un pas, un pas, un pas, un pas, et j'avais quatre hautes pattes. Je me disais, je suis un cerf. Je n'étais pas pressée. Ronce pourpre, bruyère grise, myrtillier vert émergé de la neige, mais c'étaient leurs effluves emmêlés et flottants, plus ou moins âcres ou poivrés, ou moisis, ou musqués qui m'intéressaient, qui me renseignaient. J'ai choisi une odeur pour sa bouffée résinée, les brouter un peu, un goût de bois vert. Suis passé à un bosquet doublé invisiblement d'un nuage sucré, les cisailler des dents. Dresser ses antennes branchues, orienter ses oreilles, dilater ses naseaux, le vent. Encore un pas, un autre. Je me suis arrêtée à l'arôme d'une graminée qui avait subsisté malgré le gel, enrobée d'une vapeur presque imperceptible. Je l'ai rasée nette. Puis sur mes hautes pattes, comme doublées d'un autre, je m'y croyais vraiment, j'ai encore longtemps rôdé à travers les odeurs que personne ne peut voir, pareilles à des esprits, et traçant de grandes boucles, j'ai longtemps flâné, rêvé, erré. C'était devenu une obsession, contempler des cerfs. J'aurais aimé approcher leur présence, connaître leurs pensées, pénétrer leur méditation, dormir dans leurs yeux, écouter dans leurs oreilles, me glisser dans leurs mufles, être leur salive verdie du suc des herbes, frémir sous leur pelage, bondir dans leurs muscles, m'enfoncer profondément dans leurs sabots, dans leur fond d'expérience, parcourir le temps qui existe et le temps qui n'existe pas. Nager dans les vapeurs qui montent des prairies ou dans celles qui montent des grottes, cinq cerfs nageant dans la brume aux parois de Lascaux, porter le poids de leur couronne, connaître une seconde, une seule, leur souveraineté, la mêler aux branches des forêts traversées, ne plus savoir si je suis cerf ou forêt en train de nager, de bondir, d'exister.
Romain Bertrand, Le détail du monde. L'art perdu de la description de la nature. Romain Bertrand est spécialisé en sciences politiques et en histoire connectée entre différentes aires culturelles. Il a publié, depuis le début des années 2000, de nombreux ouvrages sur le colonialisme européen, sur les rencontres entre des populations hétérogènes, sur différents types d'impérialisme. Et voici qui intéresse notre livre des forêts, sur la veine naturaliste qui, jusqu'au début du XXe siècle, permettait d'explorer le monde et de décrire la nature. Romain Bertrand part du constat que nous sommes aujourd'hui devenus muets devant des paysages, des plantes, des pierres, des bêtes que nous ne savons plus nommer. En retour, il ne nous parle plus. Jungle, mangrove ou campagne, silence. À force de promouvoir une connaissance par entaille, privilégiant le décortiquage, la dissection, l'analyse interne, les relations de cause et d'effet, nous avons perdu la saisie des surfaces et l'art du détail. Devant les restes de ce qui fut la jungle de Bornéo, c'est à l'archéologie de cette langue perdue de l'histoire naturelle que Romain Bertrand décide de s'atteler. Il nous découvre alors le lien entre l'art de la nomination ou de la description et l'émerveillement pour la diversité des êtres et des paysages.
Prologue. L'entaille du monde. La roche appelle l'entame et la terre le sillon. Tout serait impraticable, sans nul répit. Mais ce qu'il fait, lui, le fleuve, on ne sait. Friedrich Hölderlin, Lister, 1843. J'étais cet enfant cruel et joyeux qui pourchassait les lézards dans la rocaille brûlante, débusquait les truitelles sous les pierres plates des torrents, encageait grillons et sauterelles, froissait toutes choses entre ses doigts impatients. J'étais cet adolescent gauche, embarrassé de lui-même, qui quêtait le compliment de son père, et pour cela s'évertuait à abattre perdreaux et faisans au débouché des haies, lièvres au sortir des chaumes, sangliers et chevreuils dans la paix matinale des sous-bois. Je suis devenu, par mégarde, cet adulte inattentif au monde, portant sur les choses un regard distrait et distant. Puis j'ai appris, comme tout un chacun, un matin qui était loin d'être beau, la disparition des abeilles et des papillons, et qu'il n'était plus de martre ni d'alouette. Quelque chose en moi, le petit garçon d'autrefois peut-être, s'est mis alors à sangloter. Apeuré, oui, honteux aussi. L'une de mes enquêtes m'avait mené en pays de mangrove, sur la côte nord-est de l'île de Bornéo, à mi-chemin des lagons où le corail se meurt et de la forêt tropicale qu'effiloche les plantations de palmiers à huile, je contemplais un univers à l'agonie, un monde à claire-voie dont les surfaces s'étiolaient, de toutes parts livrées aux outrages de l'entaille. Sol perforé, collines tailladées, écorce balafrée, et jusqu'au tégument marin couvert de cicatrices, maculé de sillons graisseux, de la glaire chimique des grands mollusques mécaniques qui rampent sur les océans, absurdement chargés de babioles luminescentes. Et puisqu'il me fallait planter le décor de l'histoire que je m'apprêtais à raconter, je m'ai mise à observer, dans le détail de leurs troncs émaciés et de leurs ramées tourmentées, les grands êtres ligneux qui faisaient front. Comme le pèlerin que la vue d'une source rappelle à sa soif, j'éprouvais soudain mon incapacité à décrire au plus près de leur texture, au plus près de leur teinte, les frondaisons ajourées. Moi qui avais disserté sur tant de palais jusque dans le détail de leur bossage, la verdure me laissait sans voix. Comment camper en une phrase le galbe d'une palme, l'échancrure d'un branchage? De quelle façon, mot à mot, rester dans le ton d'un buisson? Le peintre sait bien, lui, qu'une feuille n'est jamais seulement verte, qui use de jaune et de blanc pour rendre l'éclat de la lumière qui s'y prélasse. Car les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages. Vite à court de phrases, nous sommes incapables de faire le portrait d'une orée. Un pré, déjà, nous met à la peine, que grêlent l'aigre moine, le cirse et l'encolie. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Au temps de Goethe et de Humboldt, le rêve d'une histoire naturelle, attentive à tous les êtres, sans restriction ni distinction aucune, s'autoriser des forces combinées de la science et de la littérature pour élever la peinture de paysage au rang d'un savoir crucial. La galaxie et le lichen, l'homme et le papillon voisinaient alors paisiblement dans un même récit. La galaxie et le lichen, l'homme et le papillon voisinaient alors paisiblement dans un même récit. Aucune créature, aucun phénomène ne possédait sur les autres d'ascendant narratif. Comme les splendeurs, les cruautés se valaient. Équitablement audibles, les douleurs appelaient d'unanime compassion. Ce n'est pas que l'homme comptait peu, c'est que tout comptait infiniment. Mais à rebours de l'antique savoir des surfaces, pour qui la raison tenait dans un regard, contre la connaissance par assonance, qui se contentait d'effleurer les êtres pour recueillir sur leurs ailes et leurs pétales les lois de leur présence, ont œuvré ceux qui voulaient à tout prix être profonds, ceux qui désiraient aller au fond des choses, quitte pour cela à les éviscérer. Le parti de l'entaille l'a peu à peu emporté sur l'art du détail, et avec lui la loi des ensembles, qui conduit souvent à ne plus penser que par cheptel. Le temps n'est plus, mais la tendresse a ses saisons, où d'aucuns faisaient promesse et profession de croquer le monde au cas par cas, s'efforçant de saisir les choses dans l'éclat de leur apparition, ourlées de la dentelle de l'instant, à jamais singulièrement belle. L'un de ces grands portraitistes de la nature avait posé son chevalet à Bornéo même, à deux pas, quelques centaines de kilomètres, de l'endroit où je me tenais. À écouter Alfred Russel Wallace faire récit de la jungle en chacune de ses aspérités, sans omettre aucune des existences qui la trament, on s'aperçoit que mille mots nous font défaut pour dire nos forêts, et surtout que si nous ne savons plus aimer les êtres naturels, c'est que nous ne savons plus les nommer. Le cirf, la prêle, le chabot nous sont devenus étrangers. Effrayé déjà par les villes sans verdure, Jean Tardieu écrivait en 1951, au temps où il y avait encore des hannetons, des macaons et des bouvreuils. Mais je veux avouer, je veux être présent, je nomme les objets dont je suis l'habitant. Ne me refusez pas ma place dans le temps. Car si je me connais, je sais ce qui me passe. Si je vois ma prison, je possède ma vie. Si j'entends ma douleur, je tiens ma vérité. À chacun son métier. J'ai suivi le conseil du poète, mais à la manière de l'historien, et me suis mise en quête de cette langue perdue, moins d'ailleurs pour la recouvrer que pour renseigner la chronique de son oubli. La traque m'a menée plus loin, mais aussi plus près que je ne m'y attendais. De la Prusse du XVIIIe siècle à la France des années 1930, de Goethe à Francis Ponge, des fjords du Spitzberg au palus du pays Picard. Car bien que brisé par le divorce de l'art et de la science, puis réduit en miettes par les chamailleries de leurs rejetons, le rêve de la description juste et joyeuse du monde n'a jamais pris fin. En tant les naturalistes, les poètes et quelques philosophes, il a perduré jusque dans les premières décennies du XXe siècle, amenant alors certains à tenter, pour la dernière fois peut-être, de faire le portrait du monde en ses surfaces.
La collection Paysages animés, dirigée par Anne Simon, s'intègre dans les activités de la chaire Sous le paysage. Elle est réalisée avec le soutien de l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, Nantes Université et du programme Forest Hub.